Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
La lecture est une amitié, disait Marcel Proust. Je m'appelle Clotilde Say, mes amis, et je suis très heureuse de vous inviter à l'émission À livre découvert.
La table des matières.
Alors, pour aller à la découverte des livres, rien de mieux que d'aller à la rencontre de ceux qui les écrivent, ceux qui les écoutent et ceux qui les lisent. Aujourd'hui, je reçois Michel Brûlé, abonné du SQLA. Je reçois Michel Plomer, une auteure que vous aimez, je le sais, parce que souvent les livres sont pris au SQLA, tous les livres de Michel Plomer. Je reçois aussi Gérard Cyr, bénévole, lecteur. Nous allons revisiter un classique, comme on le fait maintenant chaque semaine. Cette fois-ci, on va tomber dans l'univers de Françoise Sagan. Je vais vous lire aussi une lettre qu'un éditeur a écrit à Monsieur Bolduc. C'est évidemment à propos des livres et de la lecture. Et puis nous écouterons aussi quelques extraits de livres, notamment l'extrait d'une nouveauté signée Luc Mercure, également bénévole ici et auteur. Et je recevrai Luc Mercure la semaine prochaine. Et puis, bien évidemment, je vous donnerai une multitude de titres disponibles depuis peu au SQLA.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Et vous en mangez, Michel Brûlé, du livre audio. Bonjour, comment allez-vous, Michel?
Oui, bonjour, bonjour, ça va très bien, vous-même?
Mais je vais bien, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est la première fois en cette saison qu'on vous retrouve.
Et puis, je voudrais vous féliciter comme ça pour votre idée de voir les grands classiques. C'est merveilleux, c'est une chose à faire parce que souvent, les gens courent après les nouveautés, et on oublie qui a justement ces livres fabuleux et on en oublie même la langue dans laquelle ces livres sont écrits.
Alors, Oui. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie parce que honnêtement, j'ai beaucoup hésité parce qu'on recevait parfois des commentaires contradictoires de gens qui nous disaient on ne veut que des nouveautés. On connaît. Mais à un moment donné, moi je suis un petit peu comme vous. Un petit côté comme ça. Bon,
il y a une langue fabuleuse, Alexandre Dumas, je me demande si nos petits-enfants seraient capables de comprendre. Et pourtant, c'est fabuleux.
Oui, absolument, vous avez raison. Michel, vous avez décidé aujourd'hui de nous parler non pas d'un livre, mais d'une série entière. Je vous laisse nous présenter cela.
Une moitié de série entière.
Ok, d'accord. Oui, parce qu'elle n'est pas encore complètement disponible,
voilà,
c'est ça.
Donc, on a... Et puis, pour une fois, je ne suis pas de notes, j'improvise. Alors, on y va. J'ai pas l'habitude, en fait, je ne vous ai pas habitué à ce que je parle de saga familiale. Mm-hmm. Ici, il s'agit d'un autre, Michel Langlois, la série s'appelle « Les gardiens de la lumière ». Et les tomes 1 et 2 ont paru en 2013, je pense, peut-être 12-13. Mm-hmm. Puis les derniers paraîtront là, incessamment en 2014 et puis
c'est
début
ça.
2015.
Oui, le dernier, c'est ça. Ça va arriver au printemps 2015.
Ça. Alors, on peut déjà... Et puis, la raison pour laquelle j'ai voulu en parler, c'est que c'est une des meilleures séries de Langlois que j'ai lues. Puis... Pour moi, en tout cas, il me semble, c'est qu'on apprend tellement de choses là-dedans. Je suis pas une fan des sagas familiales, mais cette fois-ci, ça a rapport à l'île d'Anticosti, toute l'histoire de l'île. Comment les gens ont vécu sur cette bande de terre de 200 quelques kilomètres de long et isolée du monde 6 mois par année. Et Gardien de la lumière, pour en revenir au titre, ça identifie les gardiens de phares.
Ah, oui,
il y avait
ça.
Plusieurs phares dans l'île et puis un de ces phares-là qui est gardé. Alors, c'était en fait ça des propriétés fédérales, du gouvernement fédéral. Mmh. Et puis, un des gardiens, c'est justement le patriarche de la famille qui va être suivi durant la série, qui s'appelle Wilfrid Cormier. Puis dans le deuxième tome, ce sera son fils Laurent. Puis dans les trois, les deux autres, je sais pas. Bon. Toujours est-il que moi, ce que j'ai bien aimé dans le premier tome, qui s'appelle « Maître chez soi », la façon dont ces gens-là vivent, la terre ne leur appartient pas, mais ils cultivent, ils chassent, ils pêchent, comme si finalement ça leur appartenait, ils sont heureux. Et avant de les voir, on voit toute une chronologie là, de l'île, l'histoire de l'île, du temps, à partir de Louis Joliet, par exemple, quand ça lui a été concédé en 1680 quelques, et puis sa famille, et puis après ça, tout un chacun a racheté ça, des compagnies qui s'en sont à peu près pas occupées, mais qui avaient soi-disant des projets faramineux, il achetait ça pour une bouchée de pain. Ça fait-tu penser à quelque chose qu'on connaît aujourd'hui?
Oui, c'est, écoutez, j'allais vous le dire.
Oui. Alors, ça ressemble. Et puis, un moment donné, les gens, ils sont habitués à ça. Alors, ils vivent sans trop d'inquiétude. Ils font ce qu'ils veulent. La terre, ils sont contents d'être chez eux. Ils se sentent très bien chez eux. Mm-hmm. Moi, une chose que j'ai trouvée drôle, parce qu'il y a toutes sortes de difficultés quand tu es isolé du monde comme ça, 6 mois par année, c'est quand ils vont, la maîtresse d'école, vraiment difficile de trouver une maîtresse d'école, parce que dans ce temps-là, les femmes mariées n'avaient pas le droit d'enseigner.
Ah oui.
Alors, à tout bout de champ, il y a une nouvelle maîtresse qui arrive, puis là, évidemment, elle tombe en amour avec un beau petit gars de là-bas, puis bon, alors là, le pauvre Cormier qui s'en va encore à la recherche d'une autre maîtresse, puis ça prend encore un autre 6 mois avant de l'avoir. Puis en tout cas, c'est toute une affaire. J'ai trouvé ça belle fun. Et puis on apprend beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. C'est vraiment bien dit, c'est vraiment bien raconté.
C'est ça, parce que lorsque l'île est rachetée par la fameuse famille Meunier, ouais. les chocolats Meunier, là, ça va changer un petit peu.
Ça va changer, ça va tellement changer qu'on va arriver au tome 2.
Okay.
Et dans le tome 2, on a appris pas mal de choses, on sait comment ça se passe dans l'île, mais là, dans le tome 2, c'est toutes les améliorations époustouflantes, un rythme époustouflant qu'ils vont se faire là. Ils vont même se payer un musée, un château, puis bon, les routes qui sont ouvertes, dans le temps de le dire, puis enfin, les animaux qui sont introduits là, pour le bon plaisir du Seigneur, n'est-ce pas, avec
bien
les chevreuils en particulier, qu'on connaît bien.
Oui.
Et ça, c'est l'antithèse de ça, c'est évidemment comment l'administration s'arrange pour faire accepter ça par la population. Parce que là, la terre appartient à Meunier.
Mm-hmm.
D'accord?
Eh oui.
Tout appartient à Meunier. La moindre petite framboise que tu t'en vas cueillir, ça appartient à Meunier. Tu n'as pas le droit de cueillir, tu n'as pas le droit de chasser, de pêcher, de cueillir de la gomme de sapin à toi, à ton compte. Tout appartient à Meunier. Puis, il dit, regarde, c'est pas grave, on va t'habiller, on va te nourrir, on va te loger, on va même te donner un salaire suffisant pour te procurer l'essentiel. Ben où ça? Où tu te procures l'essentiel?
Eh oui.
Dans ses entrepôts à lui, tu sais, qui sont sur l'île. Alors, ça, c'est l'antithèse que je voulais souligner dans ce livre, ce qui m'a intéressé, parce qu'il y en a un là-dedans qui va se révolter. C'est le deuxième fils Wilfrid Cormier. Et qui s'appelle Ernest, lui. Moi, j'aime bien Ernest, parce que justement, c'est le rebelle, puis je me sentais des petits atomes crochus avec lui. Alors, lui, il dit, écoute, pas question, là, ma liberté, là, ça s'achète pas. Et il n'y a personne, il n'y a pas un chat qui va m'empêcher, moi, de rentrer puis sortir de l'île comme je voudrais, parce que vous savez que ceux qui acceptaient pas les règles... Ah oui, puis il n'y avait pas le droit de boire d'alcool, pas la
main. Ah oui, c'est
écoute,
ça, hein? Tout d'un coup, en plus, il n'avait plus le droit de chasser, alors... Bon,
pas de chasser, pas de pêcher, pas d'alcool. Ah, mais tu sais, alors lui, Ernest, mais oui, mais écoute, les gars, vous acceptez ça, le confort comme ça, mais c'est de l'esclavage, c'est toute une bande d'esclaves. Ouais. Tu sais, puis moi, dans ma tête, à moi, il a raison, tu sais.
Ben oui.
Mais on peut comprendre, les gars, si tu veux. Où aller, sinon, tu sais. Alors, ceux qui n'acceptaient pas, il fallait qu'ils quittent l'île absolument, puis définitivement, puis même s'ils ne voulaient pas quitter, ils seraient forcés de le faire. Il y a même eu un procès là-dessus.
Ouais.
peu. Et à un moment donné, René suit moi et dit, moi, ils m'empêcheront pas de rentrer puis de sortir comme je voudrais, parce que mais ils ont beau surveiller. Écoute, ils surveillent le monde là, qui veut revenir sur l'île ou qui veulent rentrer pour toutes sortes de raisons. Ils sont surveillés.
C'est incroyable.
Il faut qu'ils ont une patte blanche. Il faut qu'ils... Tu sais, ça prend des papiers là, comme l'immigration. Là.
Ah oui, exactement.
Ils se comportent vraiment... Ces gens-là, là, l'administrateur, le fameux Martin Zédé, là, comportent comme s'ils étaient un pays, ces gens-là, avec leurs propres douanes, leurs propres affaires. Là, c'est vraiment inouï. Alors, c'est à peu près ça l'histoire.
Oui, ben écoutez, moi, honnêtement, on le dit souvent, mais c'est vrai, et je vois opiner du bonnet aussi autour de moi, tous les invités qui sont là se disent « Oh, qu'on va lire ça !» Parce que je dois préciser que, c'est une histoire vraie, je veux dire, la famille Cormier, elle a existé.
Elle a existé.
Autrement dit, là, j'imagine qu'il y a des descendants de chez les Cormier, à mon avis, de voir arriver... Ce que nous savons, ça ne doit pas leur plaire tellement non plus.
Ça ne doit pas leur plaire. Puis on peut compter sur Langlois, qui est un archiviste et généalogiste, pour être allé fouiller là-dedans. Puis c'est vraiment bien documenté. Et comme j'ai dit au début, c'est écrit, les phrases sont courtes. C'est très, très, très abordable, comme tous ces livres.
Bon, et c'est bien lu?
C'est bien lu. Bon, disons que je ne répondrai pas toujours à cette question-là, mais cette fois-ci, oui.
Je ne vais pas hésiter à la poser, parce que, regardez, ça fait partie de la vie. Et puis,
Y a des fois qu'il y a des tellement beaux livres, on n'est pas capable de les lire parce que c'est bon.
OK, là, alors on va passer à un autre appel. Michel Brûlé, c'est toujours un plaisir de vous parler, et ne vous inquiétez pas, même pas préparé, ça ne se sentait même pas. Vous êtes toujours délicieuse et drôle et brillante, et on vous adore. Je rappelle que vous nous avez parlé du livre, donc des deux premiers tomes de la série de Michel Langlois, Les Gardiens de la Lumière. Je m'entretenais avec Michel Brûlé. Bonne fin de journée, Michel.
Merci à vous.
Au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et notre invité spécial, elle l'a déjà compris, alors elle est tout sourire, c'est Michel Plomeur. Bonjour Michel.
Bonjour.
Auteur, ancienne aussi professeur, parce que là j'ai tellement de choses à dire sur vous, je ne voudrais pas que ça se bouscule. Je vous ai rencontré aux correspondances d'Eastman cet été, je me suis dit je veux que cette femme vienne à l'émission. Vous avez accepté vraiment tout de suite.
C'est un vrai bonheur, merci de l'invitation.
Non mais écoutez, c'est chouette, et je vous ai invité parce qu'il y a plusieurs, en fait on a le premier de vos livres qui est enregistré au SQLA, le Jardin Sablier, c'est bien ça, et puis on a la série de Dragonville, et le troisième tome, qui est le dernier, vient de sortir au SQLA, donc il est disponible depuis quelques temps. Je me suis dit, mon Dieu, que ça tombe bien. Alors, je vous ai demandé de venir nous parler d'abord de Dragonville, puis aussi d'un autre livre de votre choix, un de vos coups de cœur que vous aurez envie de partager avec nous. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Je m'excuse, vous savez, c'est tellement agréable.
On s'est rencontrés dans un moment très ensoleillé puis on dirait que le soleil va toujours être au-dessus de nous, Clotilde.
Et Michel, je précise, parce que c'est important pour qu'on comprenne peut-être mieux pourquoi ce Dragonville, que vous partagez votre vie entre les cantons de l'Est et la Chine.
Oui, et mais la Chine du Sud.
Oui, mais attention, pas la Chine sur l'île de Montréal. On parle bien de la Chine en deux mots. Mais non, parce que je précise, parce qu'on ne sait jamais. La Chine du Sud.
Voilà.
Et Dragonville, il y a un peu de cela dans ce livre-là.
Oui. En fait, Dragonville, c'est une histoire d'amour.
Oui.
Où il y a plusieurs histoires d'amour dans Dragonville, c'est une histoire de destin croisé qui se déroule sur deux continents et à deux époques. Donc, on est à Hong Kong en 1910 surtout, et à Magog en 2010, 100 ans plus tard, et les personnages qui gravitent à ces deux époques-là vont se croiser de façon étonnante.
Mais attendez, j'ai du mal à mesurer ça sur le temps. Ils vont se croiser.
Peut-être pas dans la chair, peut-être pas en personne, mais leur destin.
Les destins vont se croiser. Alors écoutez, parce que je sais que c'est une histoire quand même assez compliquée. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup parce que je ne l'ai pas encore lu, je vais être tout à fait honnête, je souhaiterais tellement passer 24 heures de ma vie tous les jours à lire, mais j'y arrive pas. Mais j'ai relu que c'était beaucoup une histoire d'amitié et de générosité.
Aussi, oui. En fait,
expliquez-nous ça.
En fait, j'avais l'idée de de vraiment faire... Je voulais écrire une histoire extraordinaire. Je voulais que ça sorte des sentiers battus à tout point de vue. Et pour que mes personnages vivent des choses extraordinaires par l'amour, ben, ils sont aidés, hein? Ils ont...
Oui.
Par des amis, en fait. Oui. Donc, tout ce monde-là, les lignes entre l'amitié et l'amour, des fois, sont un petit peu floues.
Oui.
Alors, c'est tout ensemble, là.
C'est vrai.
Mais c'est essentiellement l'histoire du plus bel homme de Hong Kong en 1910. Et le plus bel homme de Hong Kong, ben, j'ai eu du plaisir à m'imaginer qui serait son amoureuse, son amante, mais rien de moins qu'un dragon. Alors ça, c'est la prémisse de départ. Okay. 1910.
Okay.
2010, l'héroïne, c'est Sylvie Matthews, qui revient d'un long exil en Chine pour ouvrir une boutique d'importation asiatique sur la rue principale à Magog. Et elle va découvrir, en faisant des rénovations, que le local était anciennement une blanchisserie chinoise. Alors... Et ça, c'est vrai. Sur la rue principale à Magog, il y a eu une blanchisserie chinoise. Ils ont été expropriés en 1952. Alors, j'ai fait des recherches pour voir qui étaient ces Chinois qui étaient là. Et au niveau des archives de la ville de Magog, il y a très peu d'informations. Mais dans le recensement de 1911, il y a deux hommes à cette adresse-là. Alors, c'est pour ça que je me suis imaginée aussi, j'ai eu du plaisir, parce que quand il n'y a pas d'information, quand il n'y a pas d'archives bien documentées, c'est parfait pour une romancière.
Oui.
Parce qu'on invente tout.
Bien sûr.
Alors, je me suis dit, comment est-ce qu'un Chinois pourrait se retrouver à Magog en 1911? Alors, voilà. Alors, on retrouve ce lit en 1910 et Sylvie en 2010.
Ce que je vous propose maintenant, et ce que je propose à nos auditeurs, c'est d'entendre un extrait de votre livre, de ce tome 3 de Dragonville en poids, tel qu'il a été lu ici par une personne bénévole, dont j'ignore le nom, parce qu'on ignore toujours le nom des gens qui lisent les livres. Et donc, je vous propose d'en écouter un extrait.
Ouais, formidable.
Les rives du lac bourdonnaient du murmure des fées, rives escarpées et sauvages. Les cèdres qui peuplaient son littoral étaient battus par les vents et meurtris par le passage des saisons, leurs racines s'accrochant de toute leur force à la côte pour ne pas culbuter au bas des palissades d'ardoises dans des eaux insondées. Les fées nichaient loin de l'eau, à ras le sol, dans la sécurité des labyrinthes de mousse dense et de champignons non comestibles. Le jour, elles épiaient les hommes qui peinaient à labourer, à défricher, à dompter la terre. Le soir, elles parlaient d'eux avec des phrases ponctuées d'exclamations et de rires aigus. Pour le capitaine Matthews, le lac était une île paisible, un lieu de refuge contre le vacarme des humains et des fées. Une oasis dans la dureté de la terre. Il s'étonnait que jamais un passager du Mistress of the Lake n'ait demandé de rester à bord à demeure. De son poste de pilotage sur le pont supérieur, sentinelle de bois blond équipée d'instruments de navigation en laiton astiqué, le capitaine Matthews avait repéré un flottement mou dans le ciel du soir, un ondoiement de coton tissé dans l'usine de la ville. Un drapeau était hissé au bout du mât sur le quai de la propriété des Macpherson. Sa main imprima doucement une pression sur la roue vernie pour y mettre le cap. Une caresse plus qu'une commande, à laquelle le majestueux Mistress répondit, telle une amante.
Vous êtes touchée?
Oui, beaucoup. C'est vraiment un cadeau pour moi que d'entendre cette, de m'entendre
lu par une autre
par
voix.
Par une autre voix, c'est ça.
Alors malheureusement, tout le livre ne peut pas s'accompagner, vous le comprendrez bien, d'un environnement sonore, mais je trouvais que pour un petit extrait comme ça s'imposait.
Oui, c'est magnifique. Et c'est intéressant parce que On est à Magog dans cet extrait-là, et là, il y a la musique chinoise, là. C'est tout à fait ça, le roman. En fait, c'est la rencontre des deux cultures aussi.
Je vous l'avais dit, je ne l'ai pas forcément lu, mais c'est un peu tout comme, parce que j'avais pris mes informations. Je suis bien contente. Michel Plomer, je vous rappelle aux auditeurs qui se joindraient peut-être à nous, que c'est à vous que je m'adresse. Je vous ai demandé, comme à toutes les personnes qui viennent ici, de nous partager un livre que vous avez particulièrement aimé et qui, bien sûr, est disponible au SQLA. Et vous nous avez amené...
Oui, j'ai choisi les carnets de Douglas de Christine Eddy, qui est vraiment un livre que j'adore, évidemment, et qui est un livre qui est comme un petit bijou pour moi. Mm-hmm. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque et que je relis souvent, je dirais peut-être une fois par année. Oh. Je vous dirais, quand j'ai le rhume, je lis les carnets de Douglas. C'est un livre qui me fait du bien. Et où, à chaque lecture, je plonge un petit peu plus profondément et je comprends des choses nouvelles. Et en même temps, en tant qu'écrivaine aussi, on aime lire des livres qui sont bien écrits. J'ai beaucoup d'admiration pour le style, oui, de Christine, pour sa prouesse aussi. Elle a beaucoup, beaucoup le sens du rythme. Mm-hmm. Et dans un livre, une histoire où tout est très simple, c'est simplement écrit. Et on n'est pas dans la cisaille nécessairement comme avec Kim Thuy, ouais, ou avec Christian Bobin. On est dans une simplicité, mais très, très, très rythmée. C'est, mm-hmm, assez étonnant. C'est pas facile, ça. Un petit exploit, je dirais.
J'avais lu quelques critiques. On nous dit ici un premier roman qui pourrait frôler le pathos si ce n'était de l'écriture poétique. Vous êtes d'accord avec ça? C'était dans la presse en février 2013. Une écriture poétique gracieuse et épurée. Exactement ce que vous venez de dire de Christine Eddy, de la grande humanité qui s'en dégage. Avez-vous un petit extrait?
Oui, je vous lirai le premier chapitre pour...
Oui, pour c'est pas facile avec les lunettes,
voilà,
le casque.
pour pas vendre de mèches et puis pour vous titiller un petit peu.
Parfait.
Alors, même quand elle se déroule au loin, la guerre profite toujours à quelqu'un. À Sainte-Palmyre, ce fut O'Brady. Guidé par l'odeur de pactole qui se tairait sous le moindre signe de rationnement, ils se lancèrent dans un marché noir d'aliments, brassèrent de la bière et, surtout, des affaires. Petit train va loin, et l'ancre qui signa l'armistice n'était pas encore sèche, que leur locomotive tirait déjà une rondelette fortune dont l'édification avait échappé à l'inspecteur des impôts. Comme une marée noire, leur pouvoir s'étendit sur des dizaines, puis des centaines et des milliers d'hectares. Fermes, abattoirs, épiceries, usines, auberges, à la fin, on ne compterait plus. Tout ce qui nourrissait la région finirait par leur appartenir. À Sainte-Palmyre, les Brady prendraient l'habitude de présider la table. De père en fils, cela irait de soi. Antoine, le rejeton de la première génération de ces Brady prospères, assurera le relais dès le moment où il se choisit une épouse parmi les filles de notables. Alexina, une nymphette un brin neurasthénique, mais au compte bancaire consistant. Leur opulence bien assise, Antoine et Alexina eurent deux enfants, une fille, May, et, Dieu soit loué, un garçon 3 ans plus tard. Ce qui autoriserait la nymphette à soupirer d'un air las quand le jeune Romain était présenté à d'illustres visiteurs, c'est le dernier enfant que j'aurai. Elle tint promesse.
Ah, extrait, je vous le rappelle, du livre signé Christine Eddy, Les carnets de Douglas. Elle vient d'en sortir un autre, là,
oui, hein,
sur une jeune fille qui vit dans un enfer et un enfermement, hein, donc une jeune personne malade, hein, c'est ça. Ça vient de sortir sur papier, donc à mon avis, ça devrait se retrouver disponible au SQLA d'ici peut-être quelques mois. Michel Plomer, c'était que du bonheur de vous recevoir. Moi, personnellement, je recevrai bien comme ça toutes les semaines.
Merci beaucoup. Merci.
Et c'était un enchantement. Je voudrais rappeler que, de toute façon, je vais le redire aussi à la fin de l'émission, mais ne manquez pas la série Dragonville en 3 tomes. Et le tout dernier, Emploi, vient de sortir. Il est maintenant disponible au SQLA. C'était la raison pour laquelle j'avais invité Michel Plomer. À une prochaine fois, Michel.
Adieu, adieu la nuit, adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui a tant pleuré. Adieu, tout est fini, adieu les larmes, adieu la nuit.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Oui, c'était un peu tiré par les cheveux, mon affaire Adieu Tristesse, pour nous amener vers Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était l'image que j'avais eue ce matin en me levant. Tiens, ce serait bien de mettre un petit bout d'Arthur Ashe. Oui, c'est ce livre Bonjour Tristesse que j'ai choisi de revisiter pour vous. Quoique je trouve le mot revisiter un petit peu prétentieux, simplement peut-être nous le remettre en mémoire. Ce petit roman, magnifiquement écrit, qui met en scène, on s'en souviendra peut-être, je ne sais pas si mes invités, vous l'aviez lu,
oui,
il y a sûrement longtemps, c'est
secondaire
ça.
Secondaire 3, peut-être.
Ah bon, bah c'est ça, voyez-vous, alors c'est pour ça que cette chronique existe. Donc, c'est un père volage, hein, qui, je vous le rappelle, qui emmène sa fille de 17 ans en vacances, en même temps que sa maîtresse. Et le joyeux trio alors, s'abandonne sans état d'âme aux futilités du farniente, à l'alcool, aux virées nocturnes. En tout cas, sa vie, ça bouffe la vie vraiment par tous les bouts. D'ailleurs, on nous dit aussi que c'est impossible de ne pas faire le lien entre cette jeune fille de Bonjour Tristesse et l'adolescente que fut Françoise Sagan, parce que sa sœur a dit que c'était vraiment une enfant pourrie gâtée et qui avait toujours vécu de toute façon bien au-dessus de ses moyens, même avant de gagner beaucoup d'argent avec ce premier roman, puisqu'elle nous a donné ce Bonjour Tristesse. Qui nous révélait un véritable talent d'écrivain, comme on le sait. Bon, rapidement, écoutez la vie de Sagan. Hein. Elle s'est liée d'amitié avec les plus grands, Sartre, Julien Green, Michel Déon. On sait que c'est une femme qui a été capable de tous les excès. Peut-être l'avez-vous vu, il y a un film formidable qui lui a été consacré. C'était en 2008 qu'il est paru et c'était Sylvie Testu qui jouait le rôle de Françoise Sagan. Ça s'appelle simplement Sagan. Alors voilà, j'avais envie simplement de vous remettre en mémoire les tribulations de cette jeune femme dans Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et je suis très frustrée parce que je manque de temps pour vous lire un extrait. Mais ça va vous obliger à aller le rechercher au SQLA.
À Livre Découvert avec Clotilde Seil et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et le bénévole du jour, c'est Gérard Cyr.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien Gérard?
Très
c'est
bien.
Une première participation.
Mais oui.
Mais c'est pas la première fois vous que vous avez... Ça fait combien de temps que vous lisez des livres ici bénévolement?
Ça fait un an là maintenant.
Un an?
Oui.
Je pensais que ça faisait plus... Un an?
Bah oui.
Un an?
Ah oui.
Puis, est-ce qu'on peut dire que vous avez eu une brillante carrière dans le monde entier en faisant de la musique?
Brillante carrière, j'ai jamais vu ça comme une carrière, mais j'ai eu beaucoup de plaisir, oui.
Ben, moi, je vois ça comme une carrière
quand même. J'ai vu du pays.
Avec
oui.
Qui, déjà, rappelez-moi? Avec un petit groupe hein, qui faisait ses débuts.
Genre le Cirque du Soleil,
oui,
peut-être?
Oui, par exemple, oui, c'est ça. Oui.
Les 9 dernières années.
Les 9 dernières années. Ouais, et là, il s'est dit non, là, je vais me poser un peu. Et comme il s'est posé, il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire quelque chose d'intelligent et utiliser ma belle voix pour lire des livres.
Mais ça fait 25 ans que je pense à ça.
Ah oui?
Ben oui. Il y a 25 ans, j'ai essayé de communiquer avec la magnétothèque. Mais finalement, je ne pouvais pas m'investir. J'étais toujours parti.
Ah oui, c'est ça.
Donc, mais je l'ai toujours eu dans la tête. Et puis, en revenant du cirque, j'ai tout de suite appelé ici pour passer une audition et tout. Puis, ça fonctionnait.
Et vous voilà.
Et me voilà, puis je pense que je vais continuer ça, je ne sais pas.
Mais je nous le souhaite, Gérard.
Ben, je me le souhaite à moi.
De quel livre nous parlez-vous? C'est un livre que vous avez lu ici?
Je l'ai lu ici. Ça fait au moins 7-8 mois que je l'ai lu, donc ce n'est pas frais dans ma mémoire, mais bon, j'ai fouillé un peu pour me...
Par contre, ça veut dire qu'il vient de sortir, certainement. Là, il est disponible depuis seulement un mois au SQLA. Alors, c'est vraiment une nouveauté.
C'est un livre qui est sorti en français en 2011, mais qui est sorti en version suédoise originale, parce que c'est suédois, en 2009. L'auteur est Jonas Jonasson. Et le titre, très important, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Déjà, ça me donne le goût.
Oui, moi je me dis, si j'étais auteur, là, puis déjà je trouve un titre comme ça, je me dis, que je me couche content.
Et je peux vous dire le titre en langue originale suédoise. Je ne sais pas si ça vous fait... Ça peut faire sourire.
Oh, ben, allez-y, amusez-vous bien.
Je vais essayer. Hein, s'il y a un Suédois pas loin, là, corrigez-moi. Undraringen som klev ut genom fönstret och forsvann.
Mais il a fait ça toute sa vie.
Je ne sais pas, moi. Je fais semblant. Hein, c'est... Puis, en anglais, c'est intéressant aussi. The 100-year-old man who climbed out the window and disappeared. On voit la différence entre la mentalité anglo-saxonne et
francophone. Oui, dites-moi ça en français parce que c'était trop vite pour moi, là, en anglais.
Et... C'est le vieil homme de 100 ans qui a grimpé à la fenêtre et a disparu.
C'est intéressant.
C'est une image, hein?
Ah oui.
La version française, c'est plus psychologique, si on veut.
Ah oui, c'est ça.
Le gars, il est tanné de sa maison de retraite et puis il décide de partir.
Parce que c'est vraiment ça, l'histoire.
C'est un centenaire. C'est le jour de son 100e anniversaire. Mm-hmm. Il est dans sa maison de retraite depuis un an à peine.
OK.
Quand même pas mal, hein? 99 ans sans être dans une maison de retraite. Et cette année-là, il n'a pas envie de fêter son 100e anniversaire dans la maison de retraite. Et bon, il y a Sœur Alice qui n'aime pas tellement parce qu'elle est très stricte. Et puis, il se voit pas mort encore. Là. C'est quelqu'un d'action. Toute sa vie, ça a été une vie d'aventure.
OK.
Parce que le livre, ça commence le jour de son 100e anniversaire. Et à partir de là, il y a plein de choses qui arrivent, un peu malgré lui. Il se retrouve dans des situations abracadabrantes. Mais... Il y a son background en arrière aussi. Là.
OK, donc il va y avoir beaucoup de flashbacks, c'est ce que vous êtes en
train fait,
de
c'est
me
qu'on
dire,
se ou... promène, c'est toujours en parallèle, c'est qu'on se promène entre... On fait un petit bout dans le présent, là, il se passe un événement, et on, un peu comme Tintin, si on veut. Okay. Après la deuxième page, hop, il se passe autre chose. Mais là, c'est dans le passé. On retourne dans son passé.
Et c'est clair? On le comprend bien?
Très clair, parce qu'il y a des événements dont tout le monde... entendu parler, mais ils sont un peu faussés, ils sont un peu caricaturés.
Par exemple,
lui, c'est un expert en explosif et c'est un artificier.
OK.
Bon, ben, avec un copain, ils s'en vont en Espagne dans les années 30 pour aller combattre contre Franco. Bon, il fait exploser des ponts. Finalement, il arrive face à face avec Franco, puis il décide de lui sauver la vie. Bon.
OK. Bon, on ça sait fait que, partie du livre, wow! Ah,
les férus d'histoire, là...
Non,
ça ne marchera pas, là. Les férus d'histoire, ça ne marchera pas. Il rencontre... il rencontre tout le monde, là. Après ça, il s'en va à Los Alamos, aux États-Unis, où ils ont fait les essais de la bombe atomique.
OK.
Bon, ben, lui, il sert le café là-bas. Il entend des discussions entre ingénieurs et tout, physiciens. Puis lui, il vient avec une idée. Il leur lance l'idée. Et finalement, c'est comme si c'était lui qui avait perfectionné la bombe atomique, qui fait que ça fonctionne.
Ni plus ni moins.
Il s'appelle Alan Carlson, le monsieur.
C'est ça.
Tout
puis
un caractère.
Puis il y a toute une galerie de personnages autour de lui.
Il
y en a qui sont...
Au début, en fait, c'est qu'aussitôt qu'il quitte la maison de retraite, il se retrouve à la gare, en charentaise, là, avec ses charentaises.
Puis... Il faut peut-être expliquer ce que c'est que des charentaises, parce qu'ici, je ne suis pas sûre que tout le monde...
C'est des pantoufles.
Ce sont des grosses pantoufles confortables. Hein? On peut dire ça en feutre, vous savez, voilà.
Il part avec une seule valise, il est habillé un peu en guenille avec ses charentaises, il arrive à la gare pour partir, et puis, bon, imbroglio, il se retrouve avec une valise pleine d'argent, qui a été volée. Il se retrouve avec cette valise-là, et là, ben, là, ça commence. C'est la poursuite. Les bandits veulent récupérer leur valise. La police se met là-dedans. Il rencontre toutes sortes d'individus qui l'amènent on ne sait pas où.
Je comprends qu'il ne veuille pas mourir, là-dedans. Ce gars-là. Ben, je veux dire, il vit tellement de trucs incroyables.
Il vit plein de choses incroyables. Puis, Il est totalement apolitique, ce gars-là.
Okay.
Il s'en fout complètement. Lui, tout ce qu'il veut, c'est continuer à vivre, qu'il arrive des choses, puis faire du bien aux gens autour.
Okay.
Mais il se retrouve toujours dans des situations incroyables.
Même à 100 ans, là, parce que là, souvent, vous nous parlez franco, tout ça, on est dans un épisode où on est avant.
Ouais.
Mais lorsqu'il se sauve, là, avec ses charentaises...
C'est la poursuite. Premièrement, les gens partent à sa recherche tout simplement pour ramener le centenaire, la maison de retraite. Sauf que lui, il se promène avec une valise pleine d'argent. Donc, un gang qui s'appelle Never Again qui sont après lui. Et puis là, il rencontre un vendeur de hot dog qui a déjà été étudiant à vie avant. Il est presque architecte, presque médecin, presque vétérinaire, presque ingénieur. Il n'a jamais terminé ses études parce que les études sont gratuites là-bas. Donc, il était payé en plus pour étudier tant qu'il restait aux études. Il rencontre une dame de 40 ans, une rousse.
J'aime bien la précision.
Oui, parce que je pense qu'il la trouve très belle. Elle a un chien qui s'appelle Buster et un éléphant qui s'appelle Sonia. L'éléphant qui s'est échappé d'un cirque à un moment donné, qui s'est retrouvé sur son terrain à elle, puis elle ne s'est pas posée de questions. Je le garde.
Mais c'est complètement déjanté, ce bouquin-là.
C'est complètement fou.
Je voudrais rappeler déjà le titre, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonasson.
Ouais.
Je lisais dans une critique de l'Express, le 13 août 2012, une version suédoise de Forrest Gump croisée avec l'irrévérence des Monty Python.
Absolument, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Avez-vous un petit extrait à nous offrir de ça, mon ami?
En fait, c'est des petits extraits parce que...
Des petites citations?
Oui, des petites citations.
Allez-y donc.
Je vous trouve ça. Alors, bon... Il se dit qu'il avait eu bien tort de penser mourir quand il était encore à la maison de retraite, parce que, même perclus de rhumatisme, c'était beaucoup plus rigolo d'être en cavale, loin de Sir Alice, que couché immobile, 6 pieds sous terre.
Certes.
Ensuite, ça je trouve ça drôle, c'est parce que c'est aussi, bon, il y a l'humour noir, c'est absurde. Là, il y a quelqu'un qui lui pose la question, « T'as vraiment 100 ans? Alors tu dois avoir faim? » Une autre. Ça, c'est au début du livre. En fait, c'est une citation qui vient de son père à lui, à Jonasson.
OK.
Qui dit, « Ceux qui ne savent raconter que la vérité ne méritent pas qu'on les écoute. » Ceux qui ne savent raconter que la vérité ne méritent pas qu'on les écoute.
OK, d'accord.
Ensuite, il rencontre Staline à un moment donné, blablabla. Bon.
D'ailleurs, d'où cette idée, si c'est son père qui lui a dit ça, de partir dans toutes sortes de directions et de quitter les sentiers de l'histoire telle qu'on les connaît.
Ouais.
Quoi.
À un moment donné, il rencontre Staline. Ils ont un petit différent parce que, bon, encore une fois, c'est la question de la bombe atomique, mais pour les Russes...
Un détail.
Et là, Alan parle à Staline. Il lui dit, « J'ai pensé à un truc. » Ah oui, quoi donc ?» demande Staline furieux. « Tu ne trouves pas que tu devrais raser cette moustache? » j'adore ça. Donc, comme je le disais plus tôt, les férus d'histoire avec un grand H, là, oui. Non, c'est pas pour eux, ça, ce livre-là.
Merci tellement, Gérard. Vous nous en parlez superbement bien, encore une fois. Ça va... Mon Dieu, on a tellement de livres, je ne sais pas vous, mais alors sur nos tables de chevet, là, c'est... Mais alors celui-ci, encore un, qui va aller rejoindre la compagnie des autres, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonasson. Je vous appelle Jonasson pour vos recherches. J-O-N-A-2-S-O-N. Merci beaucoup, Gérard Cyr.
Mais
on se revoit bientôt.
Hein? Très bientôt.
D'accord.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Nous sommes dans le chapitre 5. Oui, cette page de lecture de bouche à oreille qui est une espèce de petit teaser, si vous le voulez. J'ai envie de vous présenter un extrait de La Mesquita. La Mesquita, c'est un livre qui, là encore, c'est une nouveauté au SQLA qui a été écrite par un garçon qui s'appelle Luc Mercure, qui est un homme de Repentigny. Ce n'est pas son premier livre. Il en a déjà publié 3 entre 2005 et 2010. Et puis, celui-ci est paru sur papier en automne 2013. Et donc, il vient d'arriver par Luc Mercure lui-même. Et Luc Mercure sera l'un de mes invités la semaine prochaine pour venir nous en parler et pour nous parler aussi d'un autre livre, comme le veut la tradition de cette émission. L'histoire, rapidement, ce sont trois personnages qui se croisent. Maria, qui a passé 20 ans au chevet de son mari. L'abnégation est devenue sa profession de foi. Yvan, un contre-ténor homosexuel qui regarde chaque scène de sa vie à travers un prisme déformant qui, en magnifiant son ego, lui permet de supporter revers et affront. Et puis Carmen, qui s'est bardée de cuir et de clous et pratique la poterie dans un hameau perdu de Catalogne. Voilà, alors c'est la rencontre improbable entre ces trois-là. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite un extrait de La Mesquita, écrit par Luc Mercure, et vous allez comprendre très rapidement le pourquoi du choix musical.
Un éclair et une religieuse. Maria lui a ordonné deux fois de ne pas s'approcher d'elle. Il ne l'a pas prise au sérieux. « Tu vas me chanter Toréador en garde, peut-être ?» Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle sort de la chambre, noue son foulard jaune sur ses cheveux, empoigne sa valise, puis verrouille derrière elle la porte de sa maison. Au bout de 500 pas, elle jette ses clés dans un puisard. Puis elle s'écroule. « Ça va, madame ?» Maria n'a pas le souvenir des derniers pas qu'elle a faits. Le choc de sa tête contre le trottoir lui a permis de retrouver ses esprits. Ses esprits, elle en a donc plusieurs. Que découvrira-t-elle encore d'elle-même qu'elle ne connaît pas? Il n'y avait aucun être humain dans son champ de vision au moment où elle a perdu conscience. De quel hasard a surgi ce jeune homme qui lui demande comment elle va? L'a-t-il vu jeter ses clés dans le puisard? Elle essaie de lui sourire, qui lui tend la main et l'aide à se relever. « Vous êtes sûr que ça va ?» Maria n'a pas encore dit un mot. Pourquoi ce jeune homme lui pose-t-il à nouveau cette question, comme si elle lui avait déjà répondu « Oui, ça va ?» A-t-elle perdu la mémoire non seulement des secondes précédant sa chute, mais aussi de celles qui l'ont suivie ? Non, puisqu'elle se souvient que le jeune homme lui a demandé une première fois « Ça va, madame ?» En répétant sa question, il veut lui suggérer de répondre « Oui, je vais bien. » afin qu'il puisse continuer son chemin sans remords, sans se demander s'il n'aurait pas dû insister. Il a insisté, il lui a demandé deux fois si ça allait. Pour la conduire à l'urgence d'un hôpital, il y en a sûrement un pas trop loin. Nous sommes dans une grande ville où les hôpitaux, quoique débordés, sont nombreux. Et quel rendez-vous serait si important qu'il ne pourrait y arriver avec un léger retard pour avoir, peut-être, sauvé la vie d'une femme écroulée sur le trottoir?
Voilà, c'est un extrait de La Mesquita que nous venons d'entendre, écrit par Luc Mercure. C'est aussi la voix de Luc Mercure que nous avons entendue, puisque c'est lui qui est venu lire son livre. Et d'ailleurs, il lit aussi d'autres livres. Hein. Luc est un lecteur bénévole régulier. Il ne lit pas que ses bouquins ici. Et je le recevrai la semaine prochaine, donc, à cette émission à Livre Découvert.
Des nouvelles et des livres.
Oui, alors, des nouvelles et des livres. Ça aussi, c'est une nouvelle rubrique cette année. J'ai imaginé qu'avec les nouvelles du jour, on pourrait survoler un petit peu, regarder quels sont les autres titres qui viennent d'arriver au SQLA ou encore quels sont ceux qui sont là et que parfois on a tendance à les oublier. Comment ne pas oublier, nous, qu'il y a quelques semaines, Monsieur Bolduc, notre cher ministre, a fait quelques déclarations par rapport à la lecture qui ont un petit peu défrisé les cheveux de tous ceux qui aiment lire. Et je pense que si vous écoutez cette émission, comme nous qui la faisons, eh bien, ça nous a défrisé aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça nous a fait dresser le poil des jambes, si j'ose dire. Alors, j'ai pour M. Bolduc une lettre Elle est signée par Hervé Foulon. Hervé Foulon, il est éditeur aux éditions Urtubiz. Il est président du groupe HMH. Et il a écrit ceci, c'est précédé de quelques mots de Victor Hugo. « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. » Les déclarations malheureuses du ministre Bolduc, au-delà de la polémique qui a suivi, nous amènent à nous poser de nombreuses questions sur l'éducation que nous voulons offrir à nos jeunes et à la place qu'occupe la lecture dans notre société. Si le ministre s'est mis le pied dans la bouche, il n'en demeure pas moins que peu de gens sont conscients de la piètre qualité des contenus de nos bibliothèques et d'une manière plus générale du peu de cas dont on fait de la lecture. Je ne reviendrai pas sur ce que d'autres ont déjà soulevé, le peu de livres disponibles et surtout le ressort des collections qui... et là, il manque deux ou trois mots, c'est épouvantable ce qui m'arrive. Merci, bonjour à l'imprimante. Pour les inciter à la lecture, dit ce monsieur Foulon, il n'y a pas pire politique puisque dès le plus jeune âge, on leur démontre que la plupart des livres mis à leur disposition sont périmés. Le rôle d'un livre est de transmettre des connaissances, de faire découvrir, d'où l'importance de renouveler ses collections pour que l'information soit à jour. Mais un livre est également un moyen pour transmettre la culture, les idées, pour approfondir la connaissance de la langue. Un enfant n'a jamais assez de livres. C'est important d'avoir un accès facile à la lecture, car c'est une stimulation constante pour mieux connaître la langue. C'est vrai que les commissions scolaires doivent faire des choix, mais entre nous, je pense que d'autres choix peuvent être faits, a dit le Premier ministre face à la controverse. Merci, Monsieur Couillard. Mais plutôt que des démentis, ne pourrions-nous nous attendre à une politique culturelle soutenue par l'ensemble du gouvernement, à un appui à la lecture avec les moyens correspondants, à une promotion de notre littérature, poursuit Monsieur Foulon. Que sera le Québec de demain si nous ne réduisons pas le taux d'illettrisme? Que deviendra notre identité si nous ne transmettons pas par la lecture notre patrimoine littéraire et historique? Pourrions-nous espérer une meilleure coordination entre les ministères de l'Éducation et de la Culture pour favoriser la promotion et la connaissance de notre littérature et pour établir une politique à long terme de la lecture? Comme le Premier ministre le souligne, il faut avoir un accès facile à la lecture et donc aux livres, à tous les livres. Il faut que nos bibliothèques, qu'elles soient scolaires ou municipales, regorgent de livres, qu'on y retrouve les classiques de la littérature québécoise comme les nouveautés, des livres pour petits, adolescents, adultes, des romans, des documentaires, des essais, etc. Une bibliothèque devrait être la caverne d'Ali Baba. Idem pour les librairies. N'attendons pas qu'elles crèvent toutes pour réagir ou pour nous lamenter. Agissons et ne laissons pas les méga-entreprises de distribution nous dicter des volontés qui ne sont rattachés qu'à des intérêts économiques et où la diversité culturelle est sacrifiée. Mais pour cela, il faut une volonté politique et accepter d'allouer les budgets nécessaires. Il faut aussi promouvoir la lecture et le livre auprès des familles. À l'image de la Fondation Chagnon, qui a réalisé une magnifique publicité encourageant la lecture et la possession d'un livre dès le plus jeune âge, il faudrait multiplier les actions incitant les gens à lire en leur disant tout ce que la lecture apporte, que ce soit pour le plaisir, la culture, l'épanouissement personnel, la connaissance de la langue, etc. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les politiciens de quelque parti que vous soyez, ayez une vue à long terme, pensez à l'avenir de nos enfants et petits-enfants et pas seulement à la prochaine échéance électorale, aidez-les à se développer et à se nourrir l'esprit. Voilà, c'est une lettre qui était signée Hervé Foulon à notre ministre, Monsieur Bolduc. Je vous rappelle qu'Hervé Foulon est, entre autres, préside aux éditions Urtubiz. Et vous savez, chez les éditions Urtubiz, il y en a des bouquins, il y en a des séries. Elles sont toutes au SQLA. Je vous en rappelle quelques-unes, notamment toutes les séries de Michel David, aujourd'hui décédé. Vous pouvez vous les procurer. Sur le plan historique, on apprend tellement de choses, aussi un petit peu comme dans l'univers de Michel Langlois. Alors, quelques titres comme ça. À l'ombre du clocher, au bord de la rivière, un bonheur si fragile, chez Laurette, chronique québécoise, la poussière du temps, voir Québec et mourir, et puis disponible depuis très très peu de temps, mensonge sur le plateau Mont-Royal.
Quelques nouveautés en rafale.
Il me reste un petit peu de temps. Hein, ça fait du bien de temps en temps que des lettres comme ça soient écrites. Parce que c'est vrai que si nos enfants n'ont pas la lecture, moi, je dois dire que ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Mais pourtant, un jour ou l'autre, ça va bien finir par arriver.
Ça prend beaucoup plus de lettres comme ça.
Oui, c'est pour ça. Je me suis dit, tiens, on va prendre un petit peu de temps pour lire celle de M. Foulon. D'ailleurs, que je me promets bien d'avoir un de ces jours comme invité à cette émission-là. L'émission tire à sa fin et vous savez que j'ai toujours l'habitude de vous donner quelques titres en rafale parmi quelques nouveautés disponible en format audio. Il y a celui-ci de Jean d'Ormesson. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ah, monsieur Jean d'Ormesson, lire ce livre-là, je ne vous cache pas, c'est moi qui l'ai lu. Et quel bonheur, quel régal. C'est une randonnée dans la beauté du monde. C'est un roman de société, évidemment, où tout passe, tout se passe. Il est question absolument de tout, du haut de ses 88 ans d'homme brillant, je dirais même brillantissime, malade, parce qu'il soigne un cancer, monsieur d'Ormesson. Donc, c'est tout cet être-là qui s'exprime sur toutes sortes de choses. Il dit « Nous vivons une époque de transition, les livres, la famille, les murs, les frontières, les monnaies, jusqu'à la religion. Tout change et tout passe. » C'est aussi un roman d'amour, où là il dit « Rien ne change. Un écrivain cherche sa voie et il ne s'en sort que par l'amour d'une femme, Marie. Il se donne à elle, qui le rend à lui-même. » Il dit « L'amour est plus important que la littérature et que tout le reste. Il ne consiste pas à se regarder dans les yeux, mais à regarder le monde ensemble. » Ça fait partie des choses que l'on peut lire dans ce livre de Jean d'Ormesson. « Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. » Quelques critiques dans l'Express. « Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. » Ou l'art de parler de tout et de soi avec lucidité et légèreté. Dans l'Humanité, rebattant avec humour les mêmes cartes, Jean d'Ormesson trouve le moyen de faire du neuf, évoquant ici une certaine Marie pour les pattes de laquelle il tomba dans l'écriture. Il interroge l'après qui approche, interpelle Dieu et surtout se souvient des belles choses en toute élégance. Oui, c'est vrai, c'est ce mot-là qui me manquait tantôt. En toute élégance. Ça lui va très très bien. Un petit extrait. « Nous sommes enfermés dans le système et il n'est pas permis de s'échapper, même si nous le voulions. Et nous ne voulons pas vraiment. Le système, c'est ce que nous avons tricoté tous ensemble et où nous sommes condamnés à vivre avant de faire comme les autres et de nous en aller pour de bon. » Ah, quelle écriture. On passe tiens complètement à autre chose. Juliette Récamier. Ah, l'art de la séduction. C'est signé Catherine Decour. Madame Récamier, non, ne cherchez pas, elle n'a rien écrit, elle n'a pas eu d'influence politique. Et pourtant, le nom de Juliette Récamier est venu jusqu'à nous. Sa réputation, vous le savez sans doute, elle la doit à son salon qui réunissait autour d'elle les gens cultivés de son époque, Madame de Staël notamment, qui était constamment là. Et puis il y avait ce monsieur Récamier, d'ailleurs on se demande dans le livre, mais alors était-il son père ou son mari? Imaginez. Et donc c'est elle qui a donné le nom à ce célèbre Récamier que vous avez peut-être vous aussi dans votre salon. Madame Récamier qui découvre la passion avec Chateaubriand, qui accepte les trahisons, qui accepte de s'éloigner en Italie. C'est toute une histoire pour cette femme-là, toute une aventure de vie que nous raconte Catherine Decour, comme quoi on n'a pas besoin de faire de la politique ou même d'être écrivain pour se faire connaître. Alors, Juliette Récamier, l'art de la séduction de Catherine Decour. Un livre que j'aurais peut-être pu associer à celui de M. d'Ormesson, ça s'appelle « Laissez-nous vieillir », c'est de Harold Gagné. Et il s'agit de témoignages éloquents de personnes connues ou moins connues. Il y a Jean Béliveau, Jeannette Bertrand, Lise Payette, Sœur Angèle, Claude Poirier. Et ces gens-là jettent un regard sur la vieillesse, sur leur vieillesse. Sur l'amour, sur l'oubli, sur les gens qui les accompagnent, sur ceux qui doivent les défendre. C'est un livre excessivement touchant. Jean Béliveau, par exemple, qui parle de son amour, oui, bien sûr, pour le sport, etc., mais aussi pour les gens qui l'ont aimé. Et ce type-là qui a fait un ACV et qui dit, mais vous savez, il y a moyen de savoir quand on va faire un ACV. Alors, il donne un paquet de trucs. Par exemple, attention, lorsqu'il vous arrive ça, n'hésitez pas, appelez tout de suite. On évoque aussi Madame Jeannette Bertrand, qui nous donne de belles leçons de vie. Elle écrit, « Si on arrête de travailler, de se creuser les méninges, on vieillit. Je sais aussi que pour rester jeune, on doit côtoyer des jeunes. La pire chose à faire, c'est de fréquenter uniquement des vieux et de parler constamment de problèmes de santé, de la tristesse de la vie et de l'ingratitude des enfants. » Voilà. Il y a aussi Lise Payette qui laisse un témoignage très poignant sur sa relation avec sa mère en fin de vie. Alors qu'elle-même se rapproche de sa fin de vie. Il paraît que c'est vraiment très, très beau. Alors, si cela vous intéresse, Laissez-nous vieillir de Harold Gagné. Et puis, très rapidement, Le chêne et le citronnier. Le chêne et le citronnier, je me reprends, c'est de Antoine-Pierre Mariano, comme Louis Mariano. Ça, c'est une rencontre entre deux cultures, deux hommes, deux vies, au travers d'une saga qui balaie le XXe siècle et ses plus grands séismes, de la boucherie de 14-18 à l'effondrement de l'URSS. Alors, il y a Eugène, un grand bourgeois, qui est né dans les brumes du Nord, alors que lui, José, a vu le jour sous le soleil de la Méditerranée et il a connu très tôt l'exil pour fuir la misère. Leur point commun entre ces deux-là, parce qu'il y en a un, eh bien l'un et l'autre garderont au fond d'eux-mêmes une rancune éternelle envers ceux qui les ont fait naître, rancune qui ne s'éteindra qu'avec leur mort. Donc c'est une grande saga, c'est vraiment des heures et des heures de lecture. Il paraît que c'est absolument magnifique, Le chêne et le citronnier de Antoine-Pierre Mariano. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi que de Michel Plomer, que j'ai reçu, vous pouvez vous procurer les 3 tomes de sa série Dragonville, ainsi que son premier roman, Le jardin sablier, et le deuxième qui s'appelle...
Ashkapiki.
Qu'on espère que vous allez venir lire pour nous. Et puis n'oubliez pas de Françoise Sagan, nous avons en dehors de Bonjour Tristesse, La Chamade, Des yeux de soie, La femme fardée, La laisse, Un certain sourire et Un sang d'aquarelle. Merci Jean-Sébastien La Liberté à la technique, merci à Michel Brûlé de nous avoir parlé, merci à Gérard Cyr, bénévole, lecteur, d'être venu en studio et merci Michel Plomer. C'était Clotilde Say qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine et bonne lecture.